Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Enthousiasmés parce que le Seigneur est en train de faire? Je l'espère de tout cœur. Je me rappelle pas. Je m'en rappelle, mais ça fait longtemps la dernière fois où j'étais aussi là. Je sais pas comment dire là, mais waouh! Des fois, quand on embarque dans quelque chose, on se demande si c'est bien fait. Puis là, on a commencé, on va continuer. Mais c'est pas ça, là! J'espère que c'est pas ça pour vous autres. J'espère que vous êtes convaincus de ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Et juste de voir les gens debout, à l'arrière, pas de place pour s'asseoir, ça confirme qu'il n'y a plus de place pour la Rive-Sud du site. Puis s'il n'y a plus de place pour la Rive-Sud ici, on va s'étendre. Le titre du message ce matin, c'est très simple. L'implantation d'Église, la philosophie missionnaire du Nouveau Testament. Et je rajoute à ça, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. La philosophie missionnaire du Nouveau Testament, c'est l'implantation d'Église. On ne retrouve aucune autre forme de mission que l'implantation d'églises locales dans le Nouveau Testament. La première fois que j'ai eu le privilège de vous adresser la parole un dimanche matin, je vous disais que les chrétiens, c'est comme du fumier. Vous vous en rappelez de ça, hein? J'en entends encore parler. Et c'est vrai, parce que si on ne s'étend pas, tout ce qu'on fait, c'est puer. Mais si on s'étend, ça donne la vie. Et même ce qui sent mauvais peut produire du bon maïs sucré. Moi, j'en reviens pas, là, qu'à l'automne et au printemps, on voit les cultivateurs étendre quelque chose qui sent si mauvais dans les champs. Et qu'à l'automne, on a tout oublié ce que ça sentait, et on ramasse les épis de maïs, on est tous contents de croquer du bon fumier recyclé, sucré! EBTR, Église Baptiste Évangélique de Trois-Rivières, il est maintenant temps, et là je ne veux pas insulter la Rive-Sud, d'étendre votre fumier. Vous savez, toute naissance devrait être un événement joyeux. Toute naissance devrait être un événement joyeux. Mais, non, pas un mais, on a les deux pieds sur la terre. Et dans la réalité, il y a deux choses qu'on entend concernant les naissances. Vous savez, quand on est dans un salon, puis que les hommes parlent de char, puis de mécanique, puis de projet, on tend l'oreille, puis on entend les femmes parler d'accouchement, là, bien, il y a deux choses qui reviennent tout le temps. C'est miraculeux. C'est merveilleux. C'est une source de grande joie. Un temps d'émotions fortes. Même les pères aux gros bras pleins de tatous vont retenir leurs larmes quand ils prennent pour la première fois leur enfant. Et que le Seigneur nous donne cette joie-là de pouvoir participer à la naissance d'une nouvelle Église qui, à son tour, va pouvoir continuer ce que Christ a mandaté les disciples de faire. Aller, faites de toutes les nations des disciples. Et ça continue depuis ce temps-là. La deuxième chose qu'on entend, c'est que ça fait mal à coucher. On entend parler de la douleur et du temps et... En tout cas, on ne rentre pas dans les détails. La naissance d'Église ne fait pas exception à ces deux vérités. La joie de la naissance et la douleur de la naissance. On va se voir peut-être moins souvent parce que ça va être le dimanche matin, c'est un temps où les gens de la rive sud voient leurs amis ici, puis hop, on va se voir moins souvent. L'église de Trois-Rivières va se gratter la tête pour dire « Ouais, mais je me demande comment on va faire pour trouver du monde pour la pouponnière. » On l'a entendu un matin. On commence déjà à entendre là, les petits sons de la douleur qui s'en vient. Mais rassurons-nous, cette douleur est rarement mortelle et produit des résultats d'une valeur inestimable. Ce matin, nous allons adresser cette douleur et cette joie de donner la vie à une nouvelle Église. La douleur des sacrifices et la joie qui est associée à la valeur du résultat et sa pertinence dans le royaume de Dieu. Je me rappelle, à vie, marquée pour le reste de mes jours, qu'en l'espace de quelques secondes, quand mon épouse a pris notre premier enfant dans ses bras, elle a passé d'une douleur intense qui a duré plusieurs heures à un moment de joie et de paix profonde qui ont marqué ma vie profondément. Donc, rappelez-vous ceci. Peut-être que vous allez être dérangé. Même, j'espère que vous allez être dérangé. Et que dans ce dérangement-là, vous puissiez vous rappeler la valeur du sacrifice, la valeur du dérangement. L'implantation d'Église était la façon et est encore la façon que Dieu veut que nous atteignions les gens avec l'Évangile. On a tous des objectifs. On a tous, sans exception, des objectifs. Quand nous les accomplissons, on a le sentiment d'avoir réussi. Le problème avec le sentiment de réussite, c'est que quand on a ce sentiment-là, on ralentit. On veut se reposer. On veut diminuer de train de vie. Et c'est la même chose dans l'Église locale. Une église locale a besoin de moments dans leur vie où est-ce qu'ils sont dérangés pour que ce sentiment de réussite-là leur soit enlevé, pour que l'Église se rappelle que ce n'est pas encore fini. J'ai vraiment, vraiment aimé le cœur de Benoît la semaine passée. Quand un cœur de pasteur dit à l'assemblée, je suis fatigué. J'espère que vous avez entendu ce cri-là. J'espère que vous allez vous laisser déranger. Et j'espère qu'on va choisir de faire comme Marie. Et de sacrifier même un an de salaire, si c'est juste du parfum pour les pieds. C'est pas grave. Parce que c'est pour Jésus. Et quand c'est pour Jésus, ça coûte jamais trop cher. Philippiens, chapitre 3, un verset qu'on connaît tous par cœur. À partir du verset 12, aller jusqu'au verset 14, on voit l'apôtre Paul qui dit qu'il ne croit pas avoir encore remporté le prix, mais qui court. Ça faisait plusieurs églises qu'il implantait à ce moment-là. Ça faisait plusieurs souffrances qu'il endurait, plusieurs dérangements qu'il a endurés dans sa vie pour l'Église, pour la gloire du Seigneur Jésus. Il aurait pu dire, j'ai fini de courir. Mais au contraire, il embrassait le dérangement. Il embrassait la mission d'atteindre les gens avec l'Évangile. Et il a choisi de continuer de courir. La course est longue et on aimerait s'arrêter. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons ce matin ouvrir les Écritures ensemble et être motivés par ta personne. Nous voulons être motivés par la pertinence de l'implantation d'Église, l'importance de l'implantation d'Église. Et même si ce qu'on a à offrir, on pense que ça sent mauvais, avec toi, on sait que ça peut produire la vie. Et on veut aller de l'avant, avec joie, avec courage, et en acceptant d'être dérangé. Et nous voulons dire, comme l'apôtre Paul, malgré le fait que nous aimerions peut-être arrêter de courir, nous aimerions pouvoir dire comme lui, qu'on veut courir encore, parce que ce n'est pas fini. Merci pour ce matin. Dirige-nous, encourage-nous par ta parole. Bon sauveur. Amen. Actes, le chapitre 2. Donc, on va regarder au travers du livre des Actes certains événements qui se sont produits dans l'Église à ses tout débuts, que je crois que nous pouvons transposer aujourd'hui dans l'Église. Après avoir entendu ce discours, verset 37 du chapitre 2, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » C'est une affirmation qui est dans le temps et qui est dans l'espace aussi. C'est pas juste loin d'où ce qu'ils sont. Nous, on est loin d'où ce qu'ils sont, mais on est aussi loin dans le temps. Qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés en leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour assemblés, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Avant de parler d'implantation d'Église, je veux juste faire une parenthèse ce matin. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous êtes peut-être visiteur ici ce matin. Et pour vous, tout ça, l'implantation d'Église, vous êtes juste ici par curiosité. Mais j'aimerais juste soulever certains éléments dans ce texte-là qui sont importants pour vous. Sauvez-vous de cette génération perverse. Je ne sais pas la raison pour laquelle vous êtes ici, ce pourquoi vous vivez, qu'est-ce que vous courez après. Mais je le sais une chose, parce que je l'ai vécu dans ma vie, c'est que j'avais le cœur lourd de la perversion. Et de rencontrer Jésus, j'ai été libéré. Et j'aimerais que vous puissiez considérer connaître le Seigneur Jésus d'une façon personnelle. Parce qu'effectivement, si vous êtes tanné de cette génération, le Seigneur Jésus est la réponse. on va revenir à l'implantation d'église. Il y a quelque chose qui se passe quand on vient à Christ. Et c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait positif. C'est bien. On rencontre des gens qui croient comme nous, qui ont la même passion pour le Seigneur Jésus, et on veut être avec eux. Et cet élan d'amour et d'unité était tellement fort que les gens étaient prêts à vendre tout ce qu'ils avaient pour être ensemble. Première leçon à retenir de tout ça, c'est que ça veut dire que c'est peut-être pas naturel d'implanter une église. C'est peut-être pas facile de dire au revoir. Parce qu'on aimerait ça être ensemble. J'aimerais juste vous suggérer que oui, on a été créés pour vivre ensemble. Les adorateurs de Dieu sont bien ensemble. Mais que c'est pas tout à fait le temps encore. C'est pas tout à fait le temps encore. Ce temps-là s'en vient. On a soif d'être ensemble, de plus avoir besoin de se dire au revoir pour la mission. On a hâte à ce jour-là où est-ce qu'on va se retrouver pour l'éternité au pied de Jésus pour le louer pour l'éternité. Amen. C'est ça que je veux. Mais c'est pas tout de suite ça. Ça s'en vient. Et ce jour-là où il n'y aura plus de séparation, c'est le jour où être auprès du Seigneur Jésus. Mais ça n'empêche pas que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous pousse à cette unité-là, nous pousse à cet amour-là. Mais il faut savoir vivre cet amour et cette unité dans un contexte de la mission. Parce que tout comme l'unité est importante, quoiqu'elle n'ait pas une mission, la mission, elle, est une mission. Et ça, on a le devoir de l'accomplir. Et pour l'instant, c'est ce qui prime. Chapitre 4, le verset 32. Donc, premièrement, ce n'est pas nécessairement naturel de se séparer. On veut être ensemble et on veut être bien ensemble. Et c'est bien ça. Mais ça ne doit pas sacrifier la mission. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il y a toute une leçon à apprendre là. Parce que dans l'implantation d'église, l'unité de l'église locale est mise en péril. Parce que dans l'inconfort, il y a deux choses que je peux faire. Je peux chialer ou je peux dire, Seigneur, ça ne m'appartient pas, je te le donne. Je veux juste te servir. Et si on a ce cœur uni, comme on lit ici, où il n'y a pas personne qui chicanait pour dire, non, ça c'est à moi, non, ça c'est à moi. Des fois, dans l'église d'aujourd'hui, on dit plus, non, ça c'est à toi. J'en veux pas de ça, c'est toi qui vas le faire. Mais afin d'être efficace dans la mission, on doit avoir le même cœur. On doit avoir le même cœur. On ne peut pas passer à côté de ça. Les apôtres rendaient avec beaucoup de témoignages, beaucoup de force, témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Vous savez, on se dit souvent, si seulement là, on pourrait régler tous les problèmes dans l'Église. Si seulement il n'y aurait plus personne qui serait triste, si on pourrait prendre soin les uns des autres comme il faut. Mais vous savez quoi? Ce qui suit est très intéressant. Ce qui suit est très intéressant. Parce que on voit que Dieu n'a pas protégé son Église dans ce sens-ci. Il l'a protégé, mais il n'a pas protégé leur confort. Il n'a pas protégé leur petit
royaume qu'ils étaient en train de se bâtir sur la terre pour être confortables les uns avec les autres. Dieu les a protégés, eux, mais il n'a pas protégé cet aspect-là de la vie de l'Église. On voit plus tard, et on va le voir bientôt, la persécution est arrivée. Vous savez, il y a des débats sur moi j'aime mieux les grosses églises. Ah, moi, non, moi, il n'y a pas de communion dans les grosses églises, moi j'aime mieux les petites églises. Et on entend ça, puis là, il y a des différentes discussions d'un bord puis de l'autre, puis il y a même des grands théologiens qui écrivent des livres pour essayer de convaincre d'un bord ou de l'autre. Mais pour ma part, l'enjeu et l'objectif de l'Église n'est pas soi. Il ne se définit pas par notre confort. Et l'enjeu de l'Église, c'est pas est-ce qu'elle est grosse ou est-ce qu'elle est petite. L'enjeu de l'Église, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est prête à sacrifier la mission pour notre confort ou est-ce qu'on est prête à sacrifier notre confort pour la mission? Que vous soyez une petite église ou que nous soyons une grosse église, on peut atteindre le mandat que Dieu nous a donné. La question est-ce qu'on s'enfarge dans notre confort? Est-ce qu'on s'enfarge dans nos acquis? Et est-ce qu'on est prête de verser notre confort, de verser notre année de salaire sur les pieds du Seigneur Jésus? Est-ce que l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, afin d'atteindre son voisin pour l'Évangile, est capable de mettre en péril ses acquis? De mettre en péril son confort? Et de choisir d'une façon intentionnelle de faire des choses qui vont contre la sécurité et la stabilité que les hommes peuvent apporter? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que je connais le Seigneur Jésus, l'Église baptiste évangélique des Trois-Rivières va continuer à grandir. Elle va continuer à grandir. Elle va continuer à prospérer. Et elle démontre par cette implantation son désir d'obéir à Christ plutôt que de se laisser contrôler par les rêves de grandeur. L'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières a choisi de suivre la mission que Christ a mise devant elle, plutôt que de se laisser emporter par des rêves de grandeur. Est-ce que le Seigneur Jésus a un plan de grandeur pour l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières? Ça dépend peut-être de ce qu'on définit comme plan de grandeur, mais le Seigneur Jésus a certainement un plan de grandeur pour vous, et il a certainement un plan de grandeur pour l'Église baptiste évangélique d'aujourd'hui. L'Église de Jérusalem, dès ses débuts, a tombé dans le panneau du confort versus mission. Tout ce qu'il faisait était bien et dirigé par l'Esprit, mais il manquait une fibre. Il y a une fibre qui manquait. Cette force qui pousse une personne ou une Église à laisser tomber confort et amis pour le salut des âmes. Oui, ils évangélisaient. Oui, ils annonçaient l'Évangile en public de peur d'être persécutés. Oui. Mais ils n'étaient pas missionnaires encore dans leur évangélisation. Ils n'étaient pas encore missionnaires dans leur évangélisation. Et Dieu a permis quelque chose de difficile. Mais que si ça ne se serait pas produit, je ne sais pas si on connaîtrait le Seigneur Jésus comme on le connaît aujourd'hui. Tournez avec moi dans Acte 6. Juste avant que la persécution commence, tout le monde s'aime, on prend soin de tout le monde, on est tous unis. Et regardez ce qu'on entend. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qu'ils faisaient chaque jour. Où il y a de l'homme, il y a quoi? Oui, oui, dans cette église-ci, là, on prend soin les uns les autres, là, mais je pense que lui, là, on en prend soin plus que moi. Et c'est ça, c'est le cœur qui a commencé à sortir. Quand on n'a pas de fibre missionnaire, l'église commence à sentir mauvais. Il y a des petites choses qui ressortent dans l'église locale quand elle abandonne la mission. Et c'est très intéressant de voir que pas tellement longtemps après, dans Actes chapitre 8, à partir du verset, on va lire les 5 premiers versets. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Il venait de se faire lapider. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons. Il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Christ. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ils n'y avaient pas pensé d'eux-mêmes. Ce n'était pas naturel que d'abandonner le confort pour se rendre en Samarie pour annoncer l'Évangile. Mais là, ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils se sauvaient. Mais ils ont juste continué à faire ce qu'ils faisaient localement, et ils l'ont fait ailleurs. Et après ça, ça a continué, ça a fait boule de neige. Et en l'espace de quelques années, on a vu l'Évangile se rendre jusqu'à l'Empire de Rome. C'est incroyable! C'est à croire que laisse l'Église tranquille, puis elle n'est pas en santé. Essaye de l'arrêter, essaye de la persécuter, d'y faire du mal, donne-y des défis, puis ouf, ça se soulève. La vie chrétienne n'a pas été conçue par Dieu pour être vécue dans le confort, et la preuve, c'est que celui qui a initié la chrétienté n'a pas commencé la chrétienté dans le confort. Ça n'a pas été conçu pour ça. On pourrait continuer à lire dans Actes 11, dans Actes 14, et le même phénomène se produit, où est-ce que les gens se dispersent, et à cause de la persécution, il faut qu'ils changent de ville, et on voit que l'apôtre Paul, à un moment donné, il va aller dans une ville, il ne peut pas y aller, il est obligé d'aller dans une autre, et la persécution, en plus, qui était déjà motivé, la persécution le faisait aller encore plus loin, il le faisait se déplacer encore plus. Et le plus que tu te déplaces, le plus que tu parles, le plus qu'il y en a qui en entendent parler, ton bassin d'influence devient de plus en plus grand. Cette dispersion est la raison pour laquelle l'Évangile s'est rendu dans le monde entier. Le confort tue. La persécution fait grandir. Le plus que l'Église était persécutée, le plus elle grandissait. Pourquoi? Nous pouvons peut-être avoir des réponses en analysant l'Église persécutée d'aujourd'hui. Et dans cette analyse, je me suis dit, mais si d'une façon volontaire, on peut s'imposer la même discipline spirituelle que la persécution produit, est-ce que ça va produire les mêmes fruits? Si nous aussi on se promène, si nous aussi on en parle, si nous aussi on refuse de se bâtir un royaume humain, si nous aussi on refuse le confort à la gloire de Christ. Est-ce que c'est possible que l'Église au Québec pourrait en être grandement bénie par la grâce de Dieu? Et mon attention a été portée vers la Chine, et j'aimerais qu'on parle un peu de la Chine ce matin. La persécution communiste, comme on l'a connue en Chine, a commencé alentour des années 20, alentour de 1920, le régime communiste a commencé d'une façon officielle à persécuter les chrétiens, à les chercher dans les maisons pour les mettre dans les prisons, pour les faire travailler dans les camps de travail et vraiment leur donner la vie dure. 30 ans plus tard, en 1950, les historiens de l'histoire de l'Église nous disent qu'il y avait 4 millions de chrétiens évangéliques en Chine. 4 millions. En début des années 1900, on parle de quelques centaines. Ça, ça veut dire que 50 ans, 50 ans, dont 30 ans de persécution horrible, ça donne 4 millions de chrétiens. Oh. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que dans ma tête, ça prend une grosse église avec plein de services, qui prennent soin des gens, qui offrent du confort. Il ne faut pas que personne chiale, il ne faut pas que personne soit dérangé, puis là, l'église va grandir. Ça ne correspond pas à la réalité des Écritures, et ça ne correspond pas à l'histoire de l'Église non plus, et ça ne correspond pas à ce qui s'est produit en Chine. Mais l'histoire n'est pas finie, elle continue. Donc, on se dit que à la fin des années 1800, début 1900, quelques centaines, 50 ans plus tard, 4 millions, dont, dans ces 50 ans-là, 30 ans de persécution intensive. En 2010, on avait des informations qui font dire aux experts qu'il pourrait y avoir 140 millions de chrétiens évangéliques en Chine. Les plus réfractaires, les gens qui disent non, c'est impossible, ça se peut pas qu'il y en ait tant que ça, sont obligés de sortir des chiffres comme 70 millions. Donc, faites une devinette, votre devinette est aussi bonne que la mienne. Il y a un débat entre 70 millions puis 140 millions, mais ce débat-là, je m'en balance parce qu'en 1950, il était 4 millions. 60 ans plus tard, minimum 70 millions. Ça veut dire qu'en 80 ans de persécution, l'Église en Chine aurait passé de quelques centaines à 74 millions. Savez-vous combien de membres du Parti communiste il y a en Chine? T'sais, on peut être membre du Parti québécois, on peut être membre du Parti libéral, on peut être membre de n'importe quel parti qu'on veut. Combien de membres du parti qu'il y a? 70 millions. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont tellement perdu le contrôle que le gouvernement a commencé à bâtir des églises pour que les chrétiens viennent se réunir là, pour pouvoir les contrôler. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on est en train de découvrir présentement que certaines églises cachées qui commencent à se dégêner parce qu'ils voient qu'ils peuvent sortir public, parce qu'il y a moins de danger, disent être le fruit direct des missionnaires de la fin du 18e siècle, dont Hudson Taylor. Certaines églises sont fidèles depuis ce temps-là, ils n'ont pas de contact avec le monde extérieur, et quand on parle avec eux, leur foi vient de où? On est obligé de dire que ça vient de là. Pas de séminaire. Pas de structure d'église. Pas de confort. Mais un amour sincère pour le Seigneur Jésus, une fidélité constante. C'est ce que le Seigneur Jésus demande de nous aussi. Pourquoi? Pourquoi une telle croissance? La première chose qu'il faut dire, si on veut analyser la situation, la première raison qu'il faut donner, Dieu est fidèle pour sauver. L'analyse, elle commence là puis elle finit là. Dieu est fidèle pour sauver, et Dieu est fidèle pour sauver les Québécois autant qu'il est fidèle pour sauver les Chinois. Le Seigneur Jésus est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'y a pas de distinction. Mais si on regarde du côté un petit peu sociologique ou comportement de l'Église, on dirait que ce qui est interdit attire la curiosité. Et que des gens qui ne croient pas en Dieu voient des chrétiens se faire persécuter, se disent, bien voyons donc, qu'est-ce qu'il y a tant que ça à être persécuté? Donc ils s'informent, sont touchés et se convertissent à leur tour. Donc la persécution crée l'effet contraire que ce qu'elle voudrait faire. Troisième chose qu'on peut analyser, c'est que sociologiquement, les sociologues en Chine se posent des questions. Et ils se demandent qu'est-ce qui a fait la prospérité économique des États-Unis pendant toutes ces années-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui ont prospéré? Et il y a des sociologues chinois qui arrivent avec la conclusion que les valeurs chrétiennes font partie de la réussite des Chinois, des Américains. Et si ça continue comme ça, vous savez, il y a quelques années, on entendait dire « Ah oh oui, t'es chrétien, t'es comme George Bush? » Puis là, ben, dans quelques années, probablement, ce qu'on va entendre, « T'es chrétien, t'es-tu comme Wang Ding-Dong-Ga? » Avec le président de la Chine qui va être là ça, dans quelques années. Mais ils sont en train de monter des missionnaires pour atteindre le monde. Il y a des missionnaires qui partent de la Chine pour aller en Inde, pour atteindre avec l'Évangile. La persécution rend les grosses églises impossibles. C'est impossible de devenir gros. C'est impossible de bien paraître. C'est impossible de montrer une image de réussite. Et on se sert de cette carte-là dans notre société pour évangéliser. Regarde, on a un beau bâtiment. Regarde, on réussit, nous autres, dans la société. Tu voudrais-tu considérer Jésus parce qu'on réussit, nous, dans la société? Ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas la réussite sociale que Jésus nous promet. Cinquièmement, évangéliser, c'est illégal. Donc, quand tu le fais, tu le fais comme il faut. Tu le fais bien, parce que tu pourrais peut-être en mourir. Puis quand tu fais quelque chose qui pourrait peut-être te tuer, tu prends le temps de le faire comme il faut. Mais tu prends aussi le temps de le faire relationnellement. Parce que tu ne veux pas que la personne à qui t'en parle te stoule. Donc, quand tu ouvres la bouche pour parler de Christ, tu t'assures que la personne comprenne que tu l'aimes. Que tu t'assures qu'il y a une relation qui est là. Et le message, il passe plus facilement dans ce temps-là. Donc, de peur de se faire stouler, l'Évangile devient plus relationnel et d'une meilleure qualité. Sixièmement, la discipline se fait tout seul. Parce qu'on ne compte pas le prix après avoir rentré. On compte le prix avant de rentrer. Ce n'est pas venir à l'église voir si ça fait votre affaire. Tu décides si ça fait ton affaire de suivre Christ, puis après ça, tu suis. Et septièmement, et j'aime beaucoup celle-là, l'église n'est pas représentée par une institution ou une structure humaine. L'église reste organique. La barrière de se joindre à une institution n'est plus là. Tu te joins à des gens qui aiment Jésus. Et si, comme Église, on peut apprendre de cela et faire tomber notre concept de structure d'Église. Elle est bonne, la structure. Hein? Un plant de tomate sans tige pour la tenir, il va tomber, il ne portera pas du fruit. La même chose avec une vigne. Il ne faut pas enlever le treillis ou le bâton qui tient le plant de tomate. Là. Mais si c'est tout ce qu'on voit, la structure, qu'est-ce que les gens voient quand ils voient l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières? Qu'est-ce que les gens voient quand ils vont voir l'Église évangélique baptiste d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont voir une autre structure humaine, une autre hiérarchie? Ou est-ce qu'ils vont voir tout simplement des gens qui aiment Jésus? Et de se joindre à cette église-là, ce n'est pas de se joindre à une structure, mais c'est de se joindre à des amis qui aiment Jésus. Ça change l'optique. Ça rend l'approche beaucoup plus facile. On dit que les gens ne sont pas intéressés par l'Évangile. C'est-tu l'Évangile qui ne les intéresse pas ou si c'est notre structure? On dit que Dieu ne travaille pas dans les cœurs, mais est-ce que c'est Dieu qui ne travaille pas dans les cœurs ou si c'est nous qui ne sommes pas équipés pour les recevoir, ces cœurs dans lesquels Dieu travaille? C'est des questions auxquelles il faut se poser. Et il faut affronter ces défis-là. Une implantation, c'est comme un accouchement. Ça réveille. Si l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières veut survivre, elle va devoir travailler à l'œuvre du Seigneur. Si l'Église évangélique baptiste d'aujourd'hui veut réussir, elle va devoir travailler à l'œuvre du Seigneur. Il n'y en a pas d'engagement à demi-mesure. Le Seigneur Jésus, il ne s'est pas fait crucifier à moitié, il n'est pas ressuscité à moitié. Et souvent, on pense qu'on a la puissance de la résurrection juste quand on meurt. Mais la puissance de la résurrection, on l'a présentement. Elle m'habite à tous les jours par le Saint-Esprit. Et je n'ai pas besoin de dire, oh, un jour, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer parce que je connais Jésus puis je vais ressusciter. Non, je peux vivre la résurrection aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les chrétiens évangéliques, on a l'air des morts debout? Puis après ça, on s'en va voir les gens. « Hey, savais-tu que je vais ressusciter? » Ah ouais. Est-ce que ça peut commencer aujourd'hui? Pourquoi c'est juste dans le futur? « Hey, savais-tu que je suis un ressuscité? » Oups, là, il est malade, lui. Mais c'est ça la vérité. C'est pas que je vais ressusciter. Je suis ressuscité en Christ et la mort ne m'arrêtera pas. Pourquoi j'ai peur de mon voisin? Pourquoi je me cache dans une structure? Pourquoi je me sens confortable sur mon divan? Pourquoi est-ce que j'aime tant la télévision? La morale de cette histoire, imposons-nous de façon intentionnelle la même discipline que la persécution apporte dans l'Église locale. Et de s'étendre en fait partie. Soyons relationnels. Prenons le temps de bien évangéliser. Ayons comme objectif la gloire de Dieu et non notre confort personnel. Quand la grosseur et la crédibilité deviennent notre force, on n'a plus rien de divin à offrir. Quand la grosseur et la crédibilité humaine deviennent notre force, on n'a plus rien de divin à offrir. C'est quoi ça? C'est pas moi, hein? Il me semblait aussi. Il est fermé. Un petit message d'avertissement pour EEA. Moi, j'ai un bloc de boucher que je mets en avant avec un marteau. S'il y a un cellulaire qui sonne, on le met dessus. Quand la grosseur et la crédibilité humaine deviennent notre force, on n'a plus rien à offrir. Les structures, le confort, les gens peuvent en avoir ailleurs. Mais la résurrection en Jésus-Christ, la joie de se savoir pardonner, l'assurance du salut, de savoir que la mort ne me fait plus peur, il n'y a personne d'autre que nous qui peut offrir ça en Jésus-Christ. Alors arrêtons d'offrir ce que le monde peut offrir, puis offrons ce que nous peuvent offrir. On perd notre temps à offrir plein de choses que toutes les autres peuvent offrir. Offrons donc ce que seulement nous pouvons offrir. Quand notre Église devient une tour de Babel, on ne se comprend plus et on se frustre. Une Église devrait se disperser d'elle-même, ne pas attendre la persécution, faire des choix difficiles qui nuisent à l'accomplissement humain afin de pouvoir accomplir le plan divin. Si Dieu, dans sa grâce, choisit de relever l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières de cet accouchement, nous serons obligés de dire « Dieu a pris soin de nous. Si Dieu, dans sa grâce, choisit d'affermir l'Église baptiste évangélique d'aujourd'hui, nous serons obligés de dire « Dieu a pourvu ». Que cette implantation puisse devenir une leçon de la fidélité de Dieu dans les grands défis. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu n'as pas protégé l'Église qui commençait, l'Église qui était toute fragile dans ses débuts, tu ne l'as même pas épargnée de persécution et de souffrance. Et nous, on oserait croire qu'on a droit à ce confort quand la toute première Église n'y a pas eu droit. Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre, saisir et choisir de t'aimer par-dessus tout, de sacrifier tout seulement pour toi. Et Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu dis à tes disciples qu'il est préférable que tu partes et que le Consolateur vienne. Donc nous voulons bien croire que le Saint-Esprit qui nous habite, eh bien, c'est préférable à t'avoir en personne avec nous. Parce que tu n'es pas à côté de nous, tu es en nous. Et on veut t'en remercier. Seigneur Jésus, donne-nous de goûter à cette victoire que seul ton Esprit peut produire. Aide-nous à goûter à ce zèle et à ce courage que seul ton Esprit peut produire en nous. Merci, Saint-Esprit, de nous habiter, de nous diriger. Merci de nous libérer de la culpabilité qui nous ralentit. On n'a pas besoin de ça, la culpabilité, parce que tu nous pardonnes. Nous, ce qu'on veut, c'est te servir et te faire plaisir. Dirige-nous dans ta grâce. Bénis cette implantation. Bénis la maman. Permets-la de récupérer rapidement pour ta plus grande gloire. Amen.